tout de suite, on déhausse la raquette.
1, 2, 3.
Marie Ottavi.
Bonsoir, je suis Sullivan Lopostec.
Et je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen. Et ce soir, eh bien, Marie Ottavi, journaliste à Libération, avec Jacques Debacher, Dandy de l'ombre, édité chez Séguier, vous ressuscitez la gloire d'un élégant au charisme ravageur qui s'est plu, ses méfaits accomplis, à s'éclipser sans laisser de traces. Quant à vous, Sullivan Lopostec, scénariste et créateur de la série Les Engagés, diffusée sur la plateforme web Studio 4, eh bien, vous signez une fiction qui donne le goût de l'action et de l'amour. Et ce soir, tous deux, vous faites entrer dans nos vies, eh bien, un noble à particules et un mec de cité, les années 70 et l'an de grâce 2017, la ville lumière quand elle se fait aveuglante et la capitale des Gaules aux prises avec le désir et la combativité des militants de la cause homosexuelle.
Ping-pong, la culture sans limite. Oh, yeah. Et
we are lost, we are lost, we are lost, and still nothing will stop, nothing pauses. We have ambitions and friendships and courtships to think of, divorces to drink of, the thought of the money, the oil. The planet is shaken and spoiled, and life is a plaything, a garment to soil, toil the toil. I can't see an ending at all, only the end. How is this something to cherish when the tribesmen are dead in their deserts? To make room for alien structures, develop, develop, and kill what you find if it threatens you. No trace of love in the hunt for the bigger buck, here in the land where nobody gives a fuck.
Comme un lundi où on ne se laisserait pas endormir, réveillé par ce Europe is Lost, le feu slamé de l'anglaise Kate Tempest, dont l'écriture brûlante nous rappelle celle de feu, sa compatriote, la dramaturge Sarah Kane, qui quitte l'insoutenable métier de vivre en 1999. Mais Kate Tempest, elle est bien là et tempête, dans une chronique râpée de son époque et de cette Angleterre qui sent déjà tellement le Brexit lorsqu'elle commence à la raconter par les voisins de palier, les junkies et les cerveaux vidés. Je vous parle aujourd'hui de Kate Tempest car elle sera en France dans un mois, le 4 juillet, à la Philharmonie de Paris, mais aussi parce que son Europe is Lost invente une protest song contemporaine. Elle pourrait être la bande-son de l'Oslo Freedom Forum, dont la 9e édition vient de se tenir en Norvège. Certes, pour le journal The Economist, c'est le Davos des dissidents, ou la version presque suisse d'un forum social comme Porto Alegre et les déceptions altermondialistes qui s'en suivirent, mais au-delà du business et de la high-tech qui y sont présents, on y rencontre les activistes du monde entier, comme de jeunes éditeurs indépendants du Bangladesh qui défendent des publications athées sur les homosexuels au péril de leur vie jusqu'à l'exil. Ou encore des paroles comme celle de Garry Kasparov, ancien champion d'échecs opposant à Poutine, président de Human Rights Foundation qui organise justement l'événement. Merci Trump de nous avoir réveillés. Le monde entier sait maintenant que la démocratie, c'est fragile. Oui, le dormeur doit se réveiller. Une question pour vous, Sullivan Lopostec, sur cette série Les Engagés, où l'on croise à la fois le récit initiatique d'un jeune homosexuel qui va quitter sa famille, le récit de l'activisme LGBT au sein de l'association Le Point G. Dans Les Engagés, dont on va découvrir les 4 derniers épisodes, mercredi et vendredi jusqu'au 16 juin, il y a l'idée aussi d'une chronique de l'activisme contemporain au-delà de la cause homosexuelle. En quoi vous posez fondamentalement dans cette série cette question de comment avancer, comment le groupe peut agir aujourd'hui de ce qu'il y a aussi d'extrêmement difficile à pouvoir faire lutte en 2017?
C'est tout à fait la question centrale de la série et la question universelle en fait, qui est comment est-ce qu'on réconcilie l'aspiration contemporaine parfaitement légitime à l'individualité, à être chacun trouvé, à devenir soi-même et en même temps à trouver des espaces collectifs pour faire avancer des causes communes. Comment on résout ce paradoxe pour réussir de nouveau à faire avancer des causes communes? C'est un peu la question centrale que pose la série en sous-texte, effectivement.
Marie Ottavi, alors avec le personnage Jacques Debacher, on n'a pas vraiment affaire à quelqu'un qui était concerné a priori par les luttes et les causes communes. C'était plutôt un individualiste forcené, guère militant de la cause homosexuelle. Cet homme qui a été la muse de Karl Lagerfeld, il a passé 18 ans à ses côtés. Et puis, dites-vous, l'amant terrible d'Yves Saint-Laurent. Et pourtant, je crois qu'il y a un enjeu social et politique dans votre essai, votre récit publié aujourd'hui chez Séguier. Il paraît qu'on vous a dit au départ « Mais pourquoi écris-tu ça? Ça n'intéressera pas plus de 200 homos à Paris. » Et en quoi, justement, c'est précieux, pour ne pas dire salvateur, de s'intéresser aujourd'hui à cet homme-là par les temps, notamment haineux, qui courent en France?
C'est un homme qui n'avait aucune ambition, il n'a rien fait de sa vie, il n'a rien produit. Et c'était un pur dandy à ce titre-là, parce qu'il assumait complètement cette posture. Et il a assumé aussi très jeune le fait d'être homosexuel, mais pour lui, militer, ça n'avait guère d'intérêt. C'est quand même une époque où on se faisait encore casser la figure dans la rue quand on allait à une fête parce qu'on était... homo, enfin voilà. Et lui, il considérait que déjà de porter beau et de s'assumer en tant qu'homosexuel, c'était déjà une façon d'agir. Mais ouais, c'est un personnage décadent qui n'a rien voulu donner à la société en dehors de ses bons mots et de sa beauté.
Est-ce qu'il n'y a pas une forme de radicalité qui est intéressante à creuser, peut-être, puisqu'on interroge l'insurrection contemporaine chez Jacques de Bachère, qui donc a sa sœur qui elle va militer du côté des féministes. Vous le rappelez, sa sœur, elle est engagée, elle est de gauche, elle est lesbienne, elle va se défendre par exemple pour qu'on obtienne le droit à l'avortement en 75. Alors lui, pas du tout. Il est même presque du côté de Maurras. Il est très étrange, Jacques de Bachère, et en même temps, ne versant dans rien, finalement, il se compromet pas.
Oui, il est traditionnaliste, royaliste, il est complètement dans le fantasme de la chouannerie et de la Vendée d'où il vient aussi, notamment géographiquement. Mais lui, c'est un provocateur et il gravite dans le milieu de la mode. Il pénètre un milieu de la mode qui en est à ses débuts, enfin au début de l'empire que ça va devenir, du luxe. Et il est comment dire, pour lui l'oisiveté c'est déjà un engagement. Alors sa sœur que vous avez citée, elle est engagée au MLF et elle a notamment signé le fameux
le manifeste
des 343. Quand il rentre de l'armée, il a passé son service militaire sur un bateau et il rentre, et ce manifeste a déjà été publié, donc elle s'impose déjà. Mais c'est la seule femme de gauche de sa famille, parce qu'ils sont très droitistes. Ils ont vraiment ce prisme-là, mais il va jamais s'engager. Ça en restera aux bons mots et à quelques-unes de ses relations, notamment avec Renaud Camus, avec qui il n'a pas parlé politique, mais qui n'était pas le Camus qu'on connaît aujourd'hui, mais avec qui ils vont essayer d'ailleurs de faire l'amour sans succès.
Pas de radicalité, mais une forme de lâcheté esthétique.
Lâcheté esthétique. Oui, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il puise ses sources dans la littérature et il n'admire personne, il n'admire pas d'hommes politiques, il n'admire pas. Sa posture, c'est de tenter de ressembler un peu à ces personnages littéraires qui ont infusé sa vie.
Sullivan Lepostec, je ne vais pas vous demander, vous le créateur de cette série, les engagés, vers quel homme ou femme politique va votre admiration, mais est-ce qu'il n'était pas intéressant, justement sans en dévoiler trop, de l'histoire et des rebondissements de cette série, donc en 10 épisodes, 10 fois 10 minutes, en quoi est-ce qu'il était important aussi de créer, comme vous l'avez fait, un personnage homo et réac, à la fois dans la France de Sens commun et de la Manif pour tous, celle d'aujourd'hui?
En fait... Il y a une certaine particularité qui est que on est coproduit par France Télévisions, et en fait jusqu'ici en France il n'y avait jamais eu de série LGBT produite par la télévision traditionnelle. Il y avait eu des projets sur le web autoproduits, mais jamais de véritables projets comme ça. Et alors que la première dans le monde anglo-saxon date de presque 20 ans, c'est Queer as Folk. Et du coup, je pensais ne pas pouvoir éluder complètement cette question. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation? Parce que malgré tout, la question d'une série LGBT pose un problème ou une question dans le cadre de la tradition française de l'universalisme républicain. Et du coup, ça me semblait absolument important d'avoir à l'intérieur du dispositif un personnage qui critique le dispositif, qui regarde mes personnages qui sont dans une association communautaire et qui disent « Ben moi, ce que vous faites, je trouve ça... dangereux à la limite, j'ai des doutes. » Et pour que aussi ils puissent lui répondre et d'une certaine manière expliquer à travers leur action qu'il y a une différence entre le communautaire, c'est-à-dire c'est jamais rien d'autre que l'entraide de pair à pair, et le communautarisme, qui est une dérive dans laquelle eux-mêmes ne vont pas tomber, puisque ce qu'ils font, ils le font dans l'intérêt général et pas du tout dans un intérêt qui sera uniquement particulier. Mais c'était important d'avoir une voix à l'intérieur qui puisse poser ce problème et ce débat.
les voix de l'intérieur et de l'extérieur, les voix de l'entourage, bien sûr, de Jacques de Bachère. C'est tout de suite avec vous, Mario Tavi.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Puisque Jacques a des velléités d'écriture, on lui a confié un travail de bureau. Il corrige les comptes rendus de l'officier dit « en charge des loisirs ». Il lui est également proposé de s'occuper d'une émission de radio dans laquelle il donnera quotidiennement les nouvelles du pays arrivant par Telex. Il a la prétention d'éduquer ses camarades, alors en décembre, à la veille du départ, il est rentré à Paris pour réaliser des interviews de trois auteurs célèbres, Julien Green, Roger Perfitte et Guy Descart, avec l'intention de les diffuser sur Radio Orage. À bord, l'intelligence de Jacques impressionne les uns et horripile les autres. Bon nombre de marins n'ont aucune référence littéraire. Envoyé de ces choses, explique l'un de ses anciens acolytes. Un gars disait « j'ai mal à une dent » et un autre répondait « attends, j'ai une pince, je te l'arrache ». Et il passait vraiment à l'action. Ça ne volait pas très haut. C'est dire si Jacques de Bachère jurait dans le paysage. L'émission permet à Jacques de s'adonner à une autre de ses passions avec les garçons et les belles lettres, la musique. En guise de générique, il a choisi « Time is Tight » de Booker T and the MGs, l'un de ses morceaux préférés. Il diffuse un mélange de tubes, d'interviews et de nouvelles de l'extérieur très attendues. Jacques a un accès privilégié au réseau de transmission alors que l'équipage est coupé du monde. Il n'aura pourtant droit, comme les autres, qu'à un seul coup de fil vers la France pour toute la durée de la campagne, le dimanche de la fête des mères, à la fin du mois de mai. À l'antenne, il prend confiance, il lance des défis aux marins ou lit des textes bibliques à la façon des commentateurs de courses cyclistes. Il affiche son aplomb et se fait de plus en plus provocateur. Son humour ne fait pas l'unanimité et c'est là sa grande fierté.
Vous êtes à bord de l'Orage, navire de guerre de la Marine nationale, sur lequel Jacques de Bachère, qui se fait appeler Jacques de Bachère de Beaumarchais, eh bien fait son service militaire, mais pas parmi les officiers ou les sous-officiers, ce à quoi il aurait pu prétendre, mais plutôt du côté eh bien des secondes classes. C'est là qu'il anime cette émission de radio, comme on l'entend dans cet extrait de votre livre que vous nous avez lu, Mario Tavi, Jacques de Bachère, Dandy de l'ombre, qui est donc publié chez Séguier. Et pour commencer, voilà, on commence sur les flots, il gardera son pompon pour plus tard, parce qu'il est dans l'ombre de la cale et de la salle des machines dans cet extrait, et puis rapidement, il va passer à la lumière, ou en tout cas aux lumières intermittentes et interlopes des soirées parisiennes de la haute couture, des soirées du palace, et j'en passe. Ce dandy de l'ombre, ce sous-titre que vous avez choisi, c'est peut-être la nature paradoxale de Jacques de Bachère, brillant dans un monde obscur réservé aux initiés, à moins que cette ombre que vous avez choisie ne désigne le mystère. Moi, j'ai pensé à la brume magique dont Ulysse est entouré par Athéna quand il doit éviter les dangers. Expliquez-nous ce dandy de l'ombre, cet élégant clinquant de l'ombre.
Oui, bah en fait, l'envie de faire ce livre est partie de ça, de ce mystère. En fait, c'est dans le milieu de la mode, on en parlait. Enfin, c'était beaucoup de gens fantasmaient un peu sur ce Jacques de Bachère que les films sur Saint-Laurent ont fait émerger aux yeux du grand public.
Films.
Oui, les récents films, et Alicia Drake aussi, qui avait écrit une somme sur...
Oui, tout vient d'elle. Hein.
Bien sûr, c'est elle qui a fait émerger la toute première fois ce personnage.
Et journaliste américaine, donc qui fait une enquête sur Karl Lagerfeld et Yves Saint Laurent, et c'est elle qui fait émerger ce personnage.
Exactement.
Alors qu'en France, on ne s'y était pas intéressé.
Parce qu'en France, tout le monde craignait un peu... Il est détesté par Pierre Berger, il a été adoré par Karl Lagerfeld, et personne ne voulait en parler, en fait. Karl Lagerfeld, pour lui, c'était un pan de sa vie qui était trop douloureux, parce que Jacques de Bachère, qui était sa totale opposée, son miroir inversé, est mort du sida, et il l'a accompagné jusqu'à la fin. Et ça évoque ça aussi, ça évoque aussi l'hécatombe du sida à la fin, enfin, au cours des années 80. Et voilà, c'est tout l'intérêt, c'était d'arriver à comprendre comment un homme de l'ombre, un pas de côté, une sorte de, enfin, comme je vous l'ai dit, un homme qui n'a rien produit pouvait susciter le fantasme aussi longtemps. Et que disait-il de l'époque? Que disait-il de son milieu?
La noblesse d'empire.
Ouais, il est resté un mystère parce que ses parents sont décédés. Et donc, la psychologie du garçon, je n'ai pas réussi à la découvrir. J'ai rencontré beaucoup de gens, mis à part Pierre Berger. Mais il est resté un personnage mystérieux. Et surtout, qu'est-ce qui pousse un homme à ne rien faire de sa vie, à se laisser entretenir, parce qu'il a été un homme entretenu et non un vulgaire gigolo comme ses ennemis, parce que c'est un personnage clivant, l'on le décrive encore. Mais voilà, qu'est-ce qui fait que...
Et que sa vie était une œuvre d'art en soi.
Oui, que sa vie était une œuvre d'art, mais puis qu'il a péri de vivre. Enfin, il est allé très loin et ses velléités d'écriture s'achevaient chaque jour dans des excès de cocaïne et d'alcool.
Jacques de Bachère, on l'a dit, donc c'est connu pour le grand public comme un personnage de l'ombre de ces années, des années 70 jusqu'au milieu des années 80. Bon, la bascule dans le sida, donc qui est vraiment un changement, ce sont les années du 7 à Paris, les années Palace. Il y a toute cette mutation de l'époque, en fait, qui se greffe autour de votre récit de Jacques de Bachère. C'était ça aussi l'enjeu de dire quelque chose de ces années-là, peut-être de ce qu'elles avaient de séminal sur ce qu'on allait vivre plus tard en termes de sexualité ou de morale. Vous citez par exemple Fabrice Hébert, qui va créer le Palace, qui crée le 7 à l'époque, qui dit l'homosexualité sera la sexualité de demain. Non pas parce que tout le monde sera homosexuel, mais parce que finalement les pratiques hétérosexuelles ressembleront aux pratiques homosexuelles.
Oui, parce qu'à l'époque, la permissivité est extrême et la communauté homosexuelle qui en est à ses prémices quelques couples à peine assument d'être ensemble, parce qu'en général, jusque-là, on se cache, on fait même de faux mariages pour essayer d'éviter d'être estampillé homosexuel. Et en fait, à l'époque, tout le monde, pour le dire vulgairement un peu vite, mais dans ce milieu, couche avec tout le monde et a de multiples partenaires. Et ça, c'est une façon de vivre que les homosexuels assument, que les hétérosexuels assument un temps, mais sur lequel ils vont vite vite tourner ça presque en vaudeville. Il y a quelque chose de plus frontal dans le milieu homosexuel vis-à-vis de cette sexualité.
Et dans le rapport avec Pierre Berger, il y a aussi peut-être quelque chose de définitif qui peut inspirer l'avenir des relations amoureuses, parce que vous finissez le livre sur ces 18 ans de vie commune qui ne ressemblent à rien de ce qu'est le prototype ou le modèle du couple aujourd'hui tel qu'on le connaît, c'est-à-dire 18 ans sans sexualité. Pierre Berger. Ah oui. Non, pas
comme
du
vous
tout.
Y allez.
Non, donc,
il va s'étrangler en nous écoutant.
Ah oui,
j'espère qu'il nous écoute.
Pas du tout.
Il est pas pour s'étrangler.
Avec Karl Lagerfeld, avec donc du coup 18 ans de relation sans moralité, sans sexualité et sans exclusivité.
Oui, c'est étonnant parce que pendant que j'écrivais ce livre, quand on me demandait qu'est-ce que j'écrivais, j'essayais de dresser un peu un portrait assez rapide de leur relation et je voyais les yeux écarquillés de beaucoup de gens, en fait. Comment ont-ils pu être en couple sans sexualité? Et il l'a laissé avoir d'autres relations beaucoup plus libres
Ah, vous voyez.
Voilà. Merci Mathilde.
Pierre Berger, donc, qui est avec Yves Saint-Laurent, qui réprouve la relation entre Jacques de Bachère et Yves Saint-Laurent, qui lui-même est avec Karl Lagerfeld pendant 18 ans pour poser les choses.
Voilà, et Jacques de Bachère va avoir une relation avec Yves Saint-Laurent, qui est un ami, un très vieil ami de Karl Lagerfeld, donc il va aller sur un terrain très très sensible. Mais à la rigueur, Karl Lagerfeld sait tout et accepte tout. Pierre Berger, beaucoup moins, mais aussi parce que je pense qu'il y a une entreprise qui est en jeu et que Saint-Laurent, au moment où il entretient cette relation assez sadomasochiste avec Jacques de Bachère, il est en train de chuter, il est un peu cette figure du génie qui s'effondre en fait, dans l'ombre.
Sullivan Le Postec, là on entend des noms bien connus du grand public, des noms qui font la gloire et la grandeur, en particulier de la haute couture française. Vous, vous avez choisi, à contrario, avec vos engagés, la série dont vous êtes le créateur et l'auteur, de présenter des hommes et des femmes, surtout des hommes, je dirais de base, des militants de base dans la ville de Lyon. Ce héros Hicham qui vit ce parcours initiatique tout au long de la série et qui lui vient d'une cité HLM, c'était aussi une décision d'importance pour vous dans la fiction que vous avez voulu créer, de choisir des personnages qui ne soient pas justement aussi flamboyants, monumentaux que Jacques de Bachère?
Ouais, c'était une envie assez profonde qui venait aussi justement de mon envie de parler du militantisme en fait. Et du coup j'avais pas envie que des figures puissent faire écran. Et du coup c'est aussi pour ça que la série se passe à Lyon. J'ai expliqué pendant qu'on développait la série que si on faisait la même série à Paris, les figures impliquées sont déjà plus les mêmes, puisque militer à Paris c'est militer sur la scène nationale, et donc c'est être dans une perspective de carrière, et donc militer pour soi au moins autant que pour les autres. Et comme mes personnages peuvent déjà être des fois un peu chargés et complexes, si en plus ils faisaient ça pour obtenir un Marocain, devenir directeur de cabinet d'un ministre ou quoi que ce soit, il y avait vraiment rien pour les sauver, alors que là ils font des erreurs, mais au moins ils le font pour la bonne cause, avec des bonnes intentions, quitte à se tromper.
Alors il y a les bonnes intentions, et puis il y a aussi heureusement quelques méchants. Je crois que c'est ce qui vous a beaucoup plu, vous le scénariste Sullivan Le Postec, dans les séries de Russell T. Davis, donc ce grand scénariste américain qui a créé les premières séries mettant en scène des homosexuels. C'est qu'il y a, et c'est d'ailleurs non, à propos de la série Desperate Housewives, où vous étiez très heureux qu'il y ait un personnage d'homo méchant. Est-ce qu'on peut dire, Mario Tavi, que Jacques de Bachère était un homo méchant, au sens où la méchanceté a du piquant?
Oui, si je disais que ce n'est pas vrai, je mentirais, mais non, il était...
On citait la Bible, hein, il est du côté peut-être des méchants de la Bible.
Oui, c'est ça, mais en fait, j'ai pas voulu, justement, l'enjeu, c'était de ne pas être manichéenne et de ne pas être dans le jugement, en fait, m'intéresser à lui. J'ai travaillé pendant un an sur ce livre, et ce que je voulais éviter, c'était justement cette caricature de l'homme diabolique. Enfin, voilà, il savait être odieux, hein, mais il n'était pas le seul. Et c'était un peu l'un une posture dans le milieu de la mode, dans le monde du luxe et de la nuit, parce que voilà, tous les branchés moins luxe entre guillemets qui ont frayé au palace l'étaient tout autant. Enfin, c'est le témoignage qu'ils m'ont donné. Mais en effet, ce n'est pas un gentil. Et d'ailleurs, oui, je ne me suis pas intéressée à quelqu'un de trop lisse.
Oui, c'est quelqu'un dont les écrivains fétiches sont par exemple Huys Mons, mais pour là-bas. Là-bas, c'est quand même l'histoire d'un compagnon de Jeanne d'Arc qui aura au moins 140 petites victimes au compteur. Donc effectivement, c'est pas un gentil, il y a un jeu cruel, on en sait plus sur sa devise, perdre n'est pas un problème si c'est fait avec du style. Mais au fond, ce qu'on apprend fondamentalement, c'est qu'est-ce qu'on peut laisser comme trace quand on n'est pas artiste et qu'on fait une sorte d'art de sa vie, mais de para-art. Quelles sont toutes les traces qu'on laisse malgré tout? Est-ce qu'au fond, le livre que vous faites sur Jacques de Bachère, Mario Tavi, c'est pas ça, à la fois à travers une soirée comme la Moratoire Noire, à travers les lettres qu'il peut écrire, à travers les pseudos qu'il peut prendre, à travers les jeux, l'inventivité dans la vie, toutes les traces qu'on peut laisser d'art, même si c'est pas considéré comme de l'art?
Ouais, il y a un aspect de sa personnalité qui est un peu proche d'un situationniste. Il aime faire des farces et mettre mal à l'aise. Mais lui, voilà, dès lors qu'il franchit la porte de chez lui, il est déjà dans une sorte de théâtre un peu quotidien. Et d'ailleurs, je pense que le set et le palace, qui étaient des boîtes de nuit vraiment où tout le monde rêvait d'aller et où on dansait jusqu'à plus soif, étaient des lieux un peu théâtraux comme ça, des scènes où on jouait la comédie. Lui, il a créé un personnage, et ce qui m'intéressait, c'était ça. C'était comment évoquer ces deux décennies, qui sont quand même très riches, et où on pensait qu'on allait vivre toute sa vie dans ses excès, ses fêtes, sans peur du chômage, au cours des années 70, en tout cas. Qu'est-ce que dit un homme comme lui, qui n'est finalement pas grand-chose?
Sullivan Le Postec, vous aussi, vous créez des personnages, et comme vous êtes scénariste, vous laissez assez peu de traces, a priori, de votre propre vie, et pourtant, votre série Les Engagés, on le disait, se déroule à Lyon, et je crois que c'est un peu de votre vie et de votre ville qu'il y a dans cette série. Quelles traces il y a de votre vie, de votre personnage, dans tous les personnages de cette série ?
Beaucoup en fait, caché souvent, mais oui, je.
C'est le moment de spoiler quelques éléments autobiographiques.
C'est ça. J'ai milité à Lyon. J'y suis arrivé à 23 ans, qui est à peu près l'âge du personnage d'Hicham quand il arrive. Beaucoup de choses de son parcours, dans ses premières découvertes, sont des étapes que moi-même j'ai vécues. Toujours un peu transformé et évidemment, enfin, je suis pas Hicham, ça se voit assez vite. Mais ce qui permet de mettre une espèce de distance, qui permet en même temps d'aller chercher la réalité de l'émotion et les moments. Et donc du coup, il y a pas mal de scènes clés comme ça qui à la fois parce qu'elles sont très personnelles, c'est probablement ça aussi qui les rend un petit peu universelles. Alors je pense effectivement à ce moment où Hicham s'est décidé à partir de chez lui, il arrive à Lyon pour la première fois et il arrive devant ce local de cette association et il y va et il voudrait rentrer et il passe une première fois et puis une deuxième fois et puis une troisième fois avant de finalement trouver la force d'entrer. Et donc voilà, bah, évidemment c'est quelque chose que j'ai fait. Pour le coup, c'était encore quand j'habitais à Lorient que j'ai fait ça, mais en même temps c'est quelque chose que en tant qu'homosexuel, beaucoup ont fait ça et on s'y reconnaît. Donc plein de petits détails comme ça, c'est de réussir à trouver ces petits moments comme ça qui font la spécificité et qui du coup, paradoxalement, permettent de parler à tous.
Dans le livre de Mario Tavi, on découvre que Jacques de Bachère, il va être initié par son prof d'anglais jusqu'aux tenues, hein, justement, comme ça, très collège, qu'ils vont aller chiner ensemble en Angleterre. On se rend compte qu'inversement, il aime aussi initier de jeunes marins, qu'il a un côté révolution de la société sous la couette, et puis à son tour, être ensuite initié par d'autres hommes à qui, voilà, plus âgés, à qui il sait plaire. Il y a un récit d'initiation, en fait, dans Les Engagés, fondamentalement, qui est intéressant. Sullivan Le Postec, comment est-ce que vous avez voulu poser cette question en 2017, où c'est pas en rejoignant un bateau dans l'armée que voilà, ces choses-là arrivent, ou avec une relation avec un prof d'anglais, mais plus devant YouTube?
C'est ça, la première scène ou la première fois qu'on voit Hicham, il est devant un écran d'ordinateur. Et c'est effectivement ce qui, par rapport à ce monde-là, des années 70 et 80, a complètement changé. C'est-à-dire que l'initiation, on se la fait soi-même, en fait, aujourd'hui. Et on débarque pour la première fois dans le monde homosexuel quand on y débarque, en ayant déjà énormément de bagages et en connaissant déjà beaucoup de codes. Et c'est le cas d'Hicham, en fait. Il est ingénu, mais il n'est pas ignorant du tout. Et très vite, il comprend ce qui se passe. Il a lu des choses, il a vu des choses. Et les débats qui se nouent très vite autour de lui ne lui échappent absolument pas.
Pardon, Mario, ta vie.
Excusez-moi. Non, pardon.
Si, allez-y.
Non, mais parce que lui, du coup, il sait qui il est. Enfin, il sait qu'il est, je veux dire, homosexuel. Et à l'époque, ce qui différenciait peut-être, c'est qu'il y avait certains garçons, c'était une invitation. On leur faisait comprendre que peut-être il l'était. Et il plongeait là-dedans.
Invitation à la révélation.
Voilà.
Est-ce que tout ceci n'est pas dérisoire? J'ai créé un monstre. Et maintenant, je dois vivre avec.
Yves bientôt sera le seul à rayonner.
Jacques de Bachère de Beaumarchais.
Yves Saint Laurent. Je t'aime, Jacques.
Ne laisse pas nous détruire.
Jacques de Bachère. Dans le monde de la mode, il est très célèbre. Bon, par exemple, j'avais rencontré une fois la rédactrice adjointe du Vogue américain. Je lui ai demandé, mais est-ce que vous connaissiez Jacques de Bachère? Elle m'a dit, oh, Jacques. Et vous savez, tout d'un coup, elle s'est mise comme ça un peu en retrait, puis j'ai vu. Il a marqué tous les gens qui l'ont rencontré. C'est quelqu'un qui voulait faire de sa vie une œuvre, qui était ce qu'on appelle un dandy, ouais. Qui était à la fois très sensuel, très mystérieux. Moi, je dis toujours, enfin, ces derniers temps, qu'il a le sourire aussi mystérieux que celui de la Joconde. C'est-à-dire que c'est à la fois un être très attirant et très, très inquiétant. Tout ce qu'on sait, c'est que de le rencontrer, c'est à la fois une joie et une catastrophe.
Louis Garrel, la voix de Louis Garrel et quelques extraits distillés par Thomas Beau, notre réalisateur, en particulier du Saint-Laurent de Bertrand Bonello, où on retrouve évidemment cette figure magnétique et ténébreuse et lumineuse à la fois de Jacques de Bachère, qui est donc le personnage central de ce livre, Jacques de Bachère, Dandy de l'ombre, que vous publiez chez Séguier. Marie Ottavi, on entend le mot dandy, prononcé aussi par Louis Garrel. Le dandy, rappelons-le, c'est cet élégant. Baudelaire disait qu'il avait l'art de combattre et de détruire la trivialité. Chateaubriand, que le dandy devait avoir un air conquérant, léger et insolent, et aussi l'art de soigner sa toilette. Ce qui est intéressant dans ce monstre, c'était dans la voix de Gaspard Ulliel, que s'est créé Jacques de Bachère, c'est ce style hybride, qu'on pourrait même appeler chimérique. Est-ce que vous pouvez nous décrire ses défauts et autres vices qui confinent, selon Karl Lagerfeld, tel qu'il vous l'a présenté, à la perfection?
Ah, Jacques de Bachère, il était... Bon, déjà, il prenait grand soin de sa toilette, oui, en effet, il n'avait peur de rien. Il était capable de porter un laide rose autrichien avec un chapeau de marin, enfin, un pompon de marin, et des soquettes à l'écossaise. Enfin, et voilà, sa posture, elle était là, excentrique. Aujourd'hui, on se retournerait sur son passage, on s'interroge un peu interloqué. Mais à l'époque, c'était clairement ça. Mais... c'est quelqu'un qui compartimentait, donc moi je l'ai petit à petit, il avait une personnalité différente selon la personne avec laquelle il conversait, c'était presque ça, enfin si je vais dans la caricature. Et voilà, comme les grands, comment dire, comme les grands truands qui s'inventent plusieurs vies. Et,
ou les voilà. Agents secrets.
Ouais, c'est ça, et pour ne pas être démasqué, ben, les gens ne se croisent jamais, sont vus dans certains contextes. Texte. En fait, il masquait beaucoup de lui. Il était peut-être finalement très pudique dans cette espèce d'extraversion.
Extraversion, ouais.
Ouais, poussé à l'extrême. Mais non, je pense que c'est quelqu'un qui avait besoin de vivre avec de grands moyens, mais qui n'aimait pas l'argent, qui n'aimait pas en avoir dans les poches, qui s'achetait en revanche tout en 6 exemplaires. Il était très superficiel, mais toujours avec voilà cette culture immense, ce prisme du 19e-iste et cet art de la conversation qui faisait qu'il était à l'aise partout. Donc voilà, un oisif, est-ce que c'est un défaut, est-ce que c'est un défaut de l'être?
Mais c'est peut-être une réflexion sur le dandy aussi que vous nous proposez, parce que Martin l'a rappelé, il y a la définition de Baudelaire, on peut aussi songer à Brummel, c'est le dandy que vous évoquez à propos de Jacques de Bachère. Il y avait ce grand livre de Nicolas Bourriaud, Forme de vie, qui explique que le dandysme est aussi un peu à l'origine de l'art contemporain, dans cette idée de gratuité totale de la création, de non-nécessité, et qu'il y avait quelque chose de là, du land art qui allait se découvrir. Et donc vous le rapprochez de Brummel, peut-être pour le côté suicide à la boutonnière, quoi. C'est le dandy désespéré.
Oui, c'est ça. Et puis parce que il va clairement trop loin. Donc il est sans limite. Et puis son dandysme, c'est un refus de faire partie de cette société, dans ce qu'on attend de lui, en fait, de rentrer dans des normes, de se marier, par exemple. Enfin, même s'il va se fiancer à l'une de ses meilleures amies, et parce qu'il a aussi des relations avec des femmes. Et ça, c'est vraiment une envie à lui. Il a envie de se marier, mais il veut se marier à Rome, face à un cardinal. Enfin voilà, toujours ce grand train qui infuse sa vie. Mais il est voilà, il est dans une posture où il refuse de rentrer dans le rang, et il est par exemple typique du dandy qui est détesté quand il est qui est médit quand il est dans une soirée et qu'on regrette dès lors qu'il la quitte. Et ça, il adore ça, je pense que c'est...
Vous en parlez au présent, en tout cas.
Ouais, c'est vrai.
1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, et Jacques de Bachère, ce dandy de Londres, donc des années 70-80, mon Yves Saint Laurent, et de Karl Lagerfeld. Nous en savons plus sur lui grâce à Marie Ottavi et son livre Enquête. Et puis, on en saura un petit peu plus sur Les Engagés, série prévue pour des lectures délinéarisées d'un jeune public, produit par la télévision française et signé Sylvain Le Postec.
Ping Pong. La culture sans limite.
Une boîte à rythme, un synthétiseur et une bouche rouge, enfin deux en l'occurrence, qui chantent en français des paroles simples, sucrées et un brin désenchanté. On croirait entendre la définition de la pop signée par les jeunes gens modernes des années 80, 1980. Et c'est en effet ce à quoi fait délicieusement songer le nouveau tube de Super Bravo, Un baiser, une bombe. Un son à la fois rétro et intempestif comme une fontaine de jouvence qui ressuscite cette époque excitante où l'électro était dite alternative et où les mathématiques sentimentales étaient plus littéraires qu'algorithmiques. Une musique donc foutrement nécessaire pour le bel aujourd'hui qui distille sous la joie adolescente et fluo couleur bleu curaçao, verte Jet 27 ou ambre façon Red Bull, cette larme d'inquiétude qui fait et fera toujours détonner l'amour. Un baiser, une bombe, encore une caresse de notre programmateur musical Thomas Beau, signé Super Bravo, extrait de leur nouvel album L'Angle Vivant, sorti sous le label Zamora.
Ping pong.
Protéger les jeunes de la décadence de la Gay Pride, c'est légitime.
Plus personne nous entend, on se fait défoncer de partout.
Il faut du neuf, les mecs, là.
Qu'est-ce que tu fais là?
Aussi, homo.
Je
que vous êtes vraiment obligé de l'ôter à Maury?
La dénonciation, c'est presque fâché.
Il dit qu'il n'y a plus d'homophobie, si c'est vrai, il n'y a rien à craindre.
Je crois que vous avez tort tous les deux. C'est possible, ça?
Le parquet n'a pas retenu l'homophobie comme circonstance aggravante.
C'est peut-être l'avocat le problème.
Il faut la prendre en main, cette assoce.
C'est dur, c'est tout.
Mais c'est dur de changer, qu'est-ce que tu crois?
Qui signe?
Créé par Sullivan Lepostec, réalisé par Jules Tenier et Maxime Potera, Les Engagés, qui nous raconte cette collusion entre deux parcours, à la fois l'initiation et aussi le militantisme et ses complications politiques. On suit le parcours d'Hicham, on suit le parcours de Thibault. Nous sommes à Lyon, Les Engagés. Les derniers volets seront diffusés d'ici à la Marche des Fiertés, on peut le dire. Ce sera concomitant avec ces Marches des Fiertés pour les associations donc gays, lesbiennes, trans, un peu partout en Europe, sauf en Russie et autres recoins. Donc, et ça a été lancé à peu près au moment de la journée de la lutte contre l'homophobie. Donc il y a un cadrage avec votre série, Sullivan Lepostec, qui est assez politique. Il y a aussi des chiffres, des informations qui sont délivrées dès le premier épisode. 6 fois plus de suicides chez les homos, plus d'un quart des SDF qui sont des homosexuels. En quoi, finalement, à travers ce format, qui est d'ailleurs assez court, assez pop, assez dynamique, de 10 minutes, qui peut être très facilement partagé par les jeunes publics, vous faites aussi de l'information et du militantisme avec Les Engagés?
C'est une question qui est assez difficile parce que, enfin, mon job à la base c'est de raconter des histoires et donc il faut quand même que j'évite de monter sur ma boîte pour délivrer des messages et en même temps, à certains moments on peut un petit peu le faire. Des fois c'est organique, effectivement, les personnages portent ce discours, ces chiffres que cite Thibault quand on l'interroge, c'est de toute façon ce que ce militant dirait. Et puis quelquefois c'est vrai qu'il y a aussi des sujets dont j'ai estimé qu'il était important de profiter du fait que cette série existe pour les diffuser. Je pense notamment au fait que dans un épisode est mentionné la PrEP, qui est aujourd'hui un traitement préventif qui existe, qui permet d'éviter la contamination par le VIH. Et donc ça peut être important d'utiliser ce genre de plateforme pour véhiculer qu'une telle avancée scientifique, par exemple.
Et plus efficace aussi, peut-être.
Probablement, pour
par
toucher...
la fiction.
Exactement, pour toucher certains publics, ça vaut bien des campagnes de prévention institutionnelle, c'est certain. D'où l'importance de malgré tout le faire.
Alors on va revenir sur la dimension de fiction, le plaisir coupable qu'il y a à dévorer, à s'enfiler les 10 épisodes de 10 minutes, que ce soit sur son smartphone ou sur son écran d'ordinateur, parce que cette série, rappelons-le, Les Engagés, est diffusée sur la plateforme, la chaîne web de France Télévisions Studio 4, on peut aussi les retrouver sur YouTube. Il y a toute cette dimension de fiction, ce plaisir et cette intensité d'un drame personnel, mais il y a aussi à l'origine du projet que vous aviez tout contre votre cœur ou dans votre poche revolver depuis de longues années, Sullivan Lepostec, la volonté de parler des gays et des lesbiennes sous l'angle de l'activisme, dites-vous. Et si on se réfère au titre de chacun des épisodes, s'enfuir, se rencontrer, s'ouvrir, s'embrasser, Les Engagés, c'est donc à la fois ce destin singulier d'Hicham joué par Mehdi Mescar, c'est ce récit personnel, mais c'est aussi, pour citer cet anarchiste que j'aime beaucoup, Raoul Van Eghem, une sorte de manuel de guérilla ou de savoir-vivre pour la jeune génération.
Un peu, en tout cas, ce que j'essayais de signifier, c'est la manière dont souvent on arrive au militantisme en partant de soi, en fait, et on y amène ses questions personnelles et on vient y rencontrer, on y rencontre du coup un groupe, un collectif, et de là on chemine ensemble et on passe du soi au collectif, et c'est comme ça qu'on apprend du coup à interagir avec la société et à se dépasser et du coup à servir une cause qui est plus grande que son cas personnel.
Et vous avez reçu des réactions, parce qu'il y a beaucoup de réactions sur les tubes justement sous les vidéos et de la part des internautes.
Ouais, un peu, effectivement, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, la page Facebook, on a effectivement des interactions. C'est vrai que que le, ce mode de diffusion fait que le public qui nous regarde est, est souvent assez jeune, et donc du coup c'est assez intéressant et c'est assez touchant de voir ces messages, de les voir cette reconnaissance, cette scène dont je vous ai parlé. Ah ben cette scène là c'est tellement moi,
passer et de repasser dans la porte du local avant d'oser entrer.
Ça me donne envie de moi aussi de m'engager, de franchir la porte d'une association. C'est sûr que c'est touchant de recevoir de tels messages.
C'est vrai que la conception de la série en 10 épisodes, elle a quelque chose du chapitrage du roman et de la fiction. C'est vrai pour le s'enfuir, se retrouver, s'ouvrir, s'embrasser, s'émanciper, s'acharner, se découvrir, s'associer, se compromettre, se confronter. Voilà, pour les 10 épisodes, ce sera d'ailleurs en DVD intégral le 8 juin. Sullivan Le Postec, du coup, comment est-ce que vous avez évolué dans votre récit, vous, de cette histoire ? C'est-à-dire qu'avec ce projet, vous avez frappé à beaucoup de portes. Comment vous avez senti qu'il fallait adapter ceci ou cela et en même temps continuer à porter quelque chose qui était une représentation de cette communauté-là et de ce que c'est qu'un jeune homosexuel tel que c'était pas pris en charge par la fiction aujourd'hui ?
En effet, en fait, j'ai créé ce projet il y a plus de 6 ans maintenant. J'ai écrit une première version d'un premier épisode il y a plus de 6 ans. Et à l'époque, c'était un projet que moi j'écrivais avec l'idée de faire une série pour la télé traditionnelle, avec des guillemets. Sauf que, effectivement, c'est un projet qui a beaucoup circulé, qui m'a ouvert des portes, des rencontres, et qui m'a apporté plein de choses. Mais tout de suite, on me disait, c'est très bien. Et on peut en parler, mais si on veut rentrer dans le vif du sujet, on va vite parler d'autre chose, parce que ça, une chaîne ne voudra pas le passer, donc du coup, moi, en tant que producteur, je peux pas mener la discussion très loin. Et donc, je me suis heurté à ce discours-là que j'ai entendu sous 1000 formes pendant très très longtemps. Et sauf que moi, ce projet, je l'aimais vraiment beaucoup. Il était très personnel. Ces personnages, ils étaient en moi et ils voulaient absolument sortir.
Hicham et Thibault, donc le militant et le jeune homosexuel qui fuit.
C'est ça. Ils avaient vraiment besoin de s'exprimer. Et du coup, contre toute logique économique, j'ai jamais réussi à abandonner ce projet. Et j'ai toujours cherché d'autres moyens. Donc j'ai travaillé les formats. J'ai changé beaucoup de choses. Souvent. Et puis il y a 2 ans, c'est vrai que ont émergé ces plateformes de fiction web financées. Et je me suis dit que là, c'était des endroits où d'autres choses étaient possibles, c'est-à-dire à la fois d'autres sujets, c'est-à-dire traiter frontalement un sujet tel que celui-là, et aussi d'autres écritures. C'est-à-dire qu'au-delà du sujet, j'avais une volonté effectivement de faire un drama de personnages, une série qui était portée sur l'intime, des destins individuels, et du coup de pas gonfler artificiellement les enjeux, de pas avoir un meurtre, une enquête, un policier au milieu de tout ça, et de pouvoir juste dire ces destins individuels et ces victoires intimes vont être suffisantes pour nous intéresser. Et le format de court de 10 minutes était assez génial pour ça, parce que quoi qu'il arrive, on est à peu près sûr de ne pas ennuyer les gens, même sans avoir de gros enjeux sur un tel format.
Mais c'est étrange parce que...
Mario Tavi. Deuxième fois que Mario Tavi.
Mais je trouve ça toujours étrange de voir à quel point la télé grand public met tellement de temps à passer à des sujets qui nous concernent tous, enfin, et qu'on côtoie, donc en tout cas dans une ville comme Paris, des grandes villes de France. Mais alors que quand on voit Cyril Hanouna qui fait ce qu'il a fait, c'est très brutal et violent.
Peut-être le rappeler, c'est un canular téléphonique, voilà, où il appelle des homosexuels qui laissent des annonces
sur des réseaux de rencontres.
Sur des réseaux de rencontres, il se fait passer pour quelqu'un qui répond
quelqu'un
à l'annonce.
Et... Voilà. Voilà, il joue avec ça, avec des, il en fait une farce, on en pense ce qu'on veut, mais je trouve ça fou, en fait, ce gap entre cette lenteur pour que ça arrive dans des scénarios. On voit dans 10%, Camille Cotin joue une homosexuelle et c'est assez heureux. On se dit que là, voilà, il y a vraiment une belle écriture et que ça y est, ça commence à.
C'est une série sur les coulisses des agents de
cinéma.
Voilà,
pardon, elle est. Et une agence, c'est une série de France 2, donc qui a été très regardée. Mais voilà, ça m'étonne toujours.
Et ce personnage de 10%, il incarne bien ce dont on mentionnait tout à l'heure sur la question des gentils et des méchants. Pendant très très longtemps, quand on abordait l'homosexualité, on se sentait obligé de montrer un gentil homosexuel, parce que quand même, c'est des braves gens et tout ça. Et du coup, c'était ça. Quand j'ai vu ce personnage dans Desperate Housewives d'ado qui était vraiment insupportable, sauf qu'aussi il était homo, et par ailleurs c'était une terreur qui, parce qu'il conduisait mal, pouvait renverser et tuer la grand-mère de la voisine, et de voir ce personnage de Camille Cotin dans 10% qui peut être transgressif, sous prétexte qu'elle est lesbienne, elle doit pas être rabotée et elle a pas le droit de pas avoir de personnalité. Et du coup ça c'est vraiment quelque chose qui s'est débloqué super récemment en vrai.
Alors à propos de la dimension du fiction et de la manipulation, Mario Ottavi, un mot peut-être de la façon que, et du plaisir que vous avez eu à manipuler la vie de Jacques de Bachère et les témoignages que vous avez gardés très souvent entre guillemets de toutes les personnes que vous avez rencontrées. Mais comment est-ce que vous avez chapitré, puisque Mathilde parlait de ça tout à l'heure à propos de la série, comment vous avez choisi de raconter, de mettre en récit cette histoire de Jacques de Bachère?
Alors déjà, j'étais très fière de moi parce que c'était mon chapitrage et que comme d'habitude, c'est quand même assez bordélique, si j'ose dire. Et que quand j'écris à Libération, je fais à la fin des puzzles pour remettre tout en place. Et là, ça s'est fait assez naturellement, instinctivement comme ça, des courts chapitres qui amènent, je crois, qui font avancer et j'espère arriver jusqu'à la l'issue. Mais non, en fait, moi, je voyais ça comme une grande courbe, une grande montée, une grande descente un peu. Comme
c'est avec... du Zola.
Bon. Mais voilà, c'était l'idée.
On peut le rappeler dans les témoignages qu'on retrouve. Il y a beaucoup de Philippe Heurtaud, donc premier inséparable et témoin photographe de
témoin
Jacques.
Essentiel, ouais.
Témoin essentiel autour de Jacques de Bachère, Betty Catroux, et puis Manuela Papatakis, qui est la fille d'Anouk Aimée et Nikos Papatakis, qui voit Jacques de Bachère se préparer avant les fêtes. C'est comme une scène de ballet. Voilà, parmi les nombreux témoignages et lettres aussi que vous avez récupérées.
Karl Lagerfeld aussi, qui a parlé pour la première fois. Et ça, c'était un enjeu. Voilà, le livre n'aurait pas eu cette dimension s'il n'avait pas accepté, et il a accepté de parler de lui, et de façon, je pense, on voit une certaine tendresse se dessiner un peu dans ce qu'il dit.
Peut-être dire un mot sur ce qu'il dit par rapport à Proust, Karl Lagerfeld, il associe Jacques de Bachère à Swann dans Amour de Swann, et voilà, et ce qu'il comprend d'Odette.
Oui, mais en plus, il y a une référence aussi qui dit, c'est un monde, tout ce monde qu'il observe, Karl Lagerfeld, c'est comme si il n'en avait pas fait partie. En fait, il l'observe comme un... Il a traversé cet univers de permissivité, de fête, de sexe, lui, sans se droguer, sans consommer, en travaillant. Une étrangeté.
Je tiens à dire que je n'ai pas fait ce film seul. J'ai fait ce film avec toute une série d'acteurs, de techniciens, des producteurs, des financeurs, des gens qui m'ont soutenu. Et que je suis heureux que ça ait été une aventure aussi collective pour rappeler une histoire qui l'a été tout autant. On n'est jamais aussi intelligent, aussi beau, aussi fort qu'à plusieurs. Évidemment, on peut penser que ce film est un hommage aux gens qui sont morts, mais c'est aussi un hommage à ceux qui ont survécu et qui tiennent encore aujourd'hui, qui ont eu beaucoup de courage et auxquels je pense énormément ce soir, qui sont toujours avec des traitements lourds, et avec des situations assez précaires, parce qu'à l'époque où ils étaient militants, ils ont mis un peu leur vie entre parenthèses.
Évidemment, on ne pouvait pas, en parlant de la série Les Engagés, qui revient aussi sur le militantisme de cette association Point G à Lyon, dans votre série Sylvain Le Postec, on ne pouvait pas en parler sans revenir sur ce grand prix du jury attribué à 120 battements par minute de Robin Campillo, sur donc ce biopic, comme on l'a dit, d'un corps collectif, cette histoire de la lutte d'ACT UP pour l'accès aux médicaments, dans la lutte contre le sida, pour aussi débarquer dans les salles de classe et balancer des choses autour de la sécurité. De l'homosexualité qu'on ne peut pas entendre à l'époque. Il y a cette idée de Didier Lestrade qui dit que le film l'a laissé sans voix. Vous, comment vous vous êtes retrouvé dans cette concomitance de votre propre série qui est diffusée au moment où ce film arrive et va mettre un petit peu tout le monde sans voix au Festival de Cannes?
C'est assez étrange parce que en plus il y a 120 battements par minute. Aux États-Unis, ils viennent juste de diffuser une série qui s'appelle When We Rise par Dustin Lance Black, le scénariste de Harvey Milk, qui est aussi une grande fresque sur l'histoire du militantisme homosexuel. Et il y a Arte qui est en train de développer, qui s'apprête à tourner une mini-série qui s'appelle Fierté sur la même chose en France. Donc moi qui ai porté ça pendant très très longtemps, effectivement j'arrive à un moment où brusquement ces histoires sont entendues. En fait, à mon sens, ma théorie, c'est que tout ça est très lié à ce qui s'est passé autour du débat sur le mariage pour tous. C'est-à-dire que moi, déjà avant cette époque-là, j'essayais de dire que j'avais envie de raconter cette histoire. Je me suis vu en 2011 rencontrer une productrice qui m'a dit « Ah, c'est très bien ton projet, mais je pense que aborder la question de l'homosexualité sous le prisme du militantisme aujourd'hui, c'est plus vraiment le sujet parce que c'est dépassé cette question, c'est accepté par tout le monde maintenant. » Et puis voilà, 2 ans plus tard, il y avait 1 million de gens dans les rues pour protester contre l'ouverture du mariage, l'égalité des droits. Et ça, ça a généré une certaine prise de conscience. Et moi, plein d'autres, ces gens-là, on peut citer aussi Anne Rosemary, qui sort un film, une comédie romantique lesbienne au début du mois de juillet. On avait tous, depuis longtemps, envie de raconter nos histoires. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on nous en donne l'autorisation, si je puis dire.
Oui, c'est parce qu'il reste en effet un combat à mener. Mathilde parlait des écoles, je pense qu'il y a toujours de l'information, ne serait-ce que cela, à apporter. Mais qu'est-ce que vous souhaitiez apporter dans le débat contemporain avec cette figure, vous Marie Ottavie, cette figure ténébreuse et méphitique de Jacques de Bachère? Il y avait aussi quelque chose d'important à garder pour aujourd'hui qui se perd?
Ah ben oui, ben clairement aujourd'hui dans la bien pensance généralisée, dans une sorte de politiquement correct, bien établi, de plus vraiment, on sent que la société elle est basée là-dessus. Cette époque de folie, de flamboyance, de qui allait à contre-courant de toute la bien pensance. Voilà, je pense que c'était intéressant de la révéler un peu.
Ping-pong. Révélez-vous. C'est déjà fini.
Merci beaucoup à tous deux, Marie Ottavie, Sullivan Le Postec. Marie Ottavie, donc, vous signez Jacques de Bachère, Dandy de l'ombre chez Séguier. Quant à vous, Sullivan Le Postec, vous êtes l'auteur, vous êtes coupable et responsable de cette épatante série de 10 fois 10 minutes, donc à déguster sans se gêner. Les Engagés, c'est diffusé sur la chaîne web de France Télévisions Studio 4. Et les derniers épisodes sont à découvrir très bientôt. Ils sont tous à découvrir en intégrale, en DVD, chez Optimal.
Le ping-pong est une sexualité radiophonique qui s'invente en équipe. Et quelle équipe? À la rédaction, Aïssat Wendoy, Jeanne Aléos, Sam Boutata et Anna Baron. À la réalisation, Thomas Beau, le consterné, je dirais. À la prise de son, Bruno Gagnard Fontanil et Pierrick Monsigny.
Demain, dans ping-pong, deux femmes bien connues des services de police. Anne Lorquer, qui vient de recevoir le prix européen du polar pour sa daronne. Et la journaliste Patricia Tourancheau, journaliste police-justice, qui a écrit le 36 des histoires de poulets, d'indiques et de tueurs en série.
Vous pouvez retrouver le ping-pong en podcast pendant l'éternité et un jour sur le site franceculture.fr.